Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Quel monde en 2019, regard sur les grands enjeux mondiaux avec notre invité Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po, expert en relations internationales, auteur de très nombreux ouvrages. Le dernier, Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse aux éditions La Découverte. Bertrand Badie, bonjour.
Bonjour.
Vous qui scrutez à la loupe ce qui se passe à l'échelle mondiale, comment, à vos yeux, 2018 s'inscrit-elle dans l'histoire récente de notre planète? Diriez-vous que 2018 s'achève avec davantage d'incertitudes que les années précédentes?
Certainement, même si l'incertitude est devenue monnaie courante en relations internationales. Depuis qu'on est sorti du système bipolaire, on ne connaît pas bien les mécanismes qui organisent l'ordre international et donc on est en quelque sorte toujours pris par surprise. Mais j'ajouterais quelque chose, hélas, de pessimiste, c'est-à-dire que non seulement on est dans une incertitude croissante, mais on est dans un échec croissant. Et 2018, c'est difficile de résumer en une phrase, mais s'il fallait le faire, je dirais que c'est l'échec du multilatéralisme, le recul du multilatéralisme, ce dont nous avons absolument besoin pour vivre dans notre planète mondialisée, que ça plaise ou que ça plaise pas, on est dans le temps de la mondialisation, et dans le temps de la mondialisation, il y a une seule façon de gérer les choses, c'est la gouvernance globale, comme on dit, c'est-à-dire le multilatéralisme. Or, maintenant, il devient monnaie courante de récuser le multilatéralisme, de s'en défaire. Le grand vainqueur, c'est le cavalier seul. C'est-à-dire, chacun y va de son cavalier seul. Alors évidemment, on a tous en tête Monsieur Trump et les multiples coups portés par lui au multilatéralisme. Mais regardez la manière dont le Japon, il y a quelques jours, s'est émancipé des accords multilatéraux sur la chasse à la baleine. C'est une petite chose par rapport à l'énormité des enjeux, mais ça prouve que maintenant, lorsque l'intérêt national est un tant soit peu contrarié par la rationalité collective, par les besoins collectifs, par les besoins de l'humanité, eh bien, on s'en dégage, on s'en émancipe sans scrupule. Et l'élection de M. Bolsonaro au Brésil, c'est aussi la remise en cause un peu plus de la COP21, c'est la critique du système onusien. Ce qui là aussi est quelque chose d'inquiétant, parce que la critique du multilatéralisme échappait jusque-là aux BRICS, aux puissances émergentes qui espéraient toujours y jouer un rôle de plus en plus important. Alors c'est vrai qu'on leur a fermé la porte, puisqu'il n'y a pas eu de réforme du Conseil de sécurité leur permettant d'accéder à des cercles de décision réels. Mais jusque-là, les émergents, y compris la Chine d'ailleurs, se montraient respectueux à l'égard du multilatéralisme. Le virus est en train de les attaquer. L'Inde de Monsieur Modi est tenté par le cavalier seul, mais le Brésil encore plus, bien plus, et tout ceci effectivement donne l'impression d'un monde à reconstruire.
Alors, on va rester quelques instants sur cet échec du multilatéralisme que vous évoquez, Bertrand Badie. Il n'est pas le fruit du hasard.
Non, il n'est pas le fruit du hasard parce qu'il est d'abord lié à un certain nombre d'événements, dont l'élection de Donald Trump est un élément important, mais aussi beaucoup d'élections en Europe, de l'Italie de M. Salvini aux pays d'Europe centrale. Et surtout, et là, voyez, nous touchons, je crois, à une autre caractéristique, alors sinon de l'année 2018, du moins de notre décennie, il est à raccrocher à cette grande peur, qui est la grande peur de la mondialisation. On a l'impression que cette grande peur de la mondialisation vient réconcilier des forces, des acteurs et des idéologies qui jusque-là est séparée. C'est-à-dire, on voit dans la grande peur de la mondialisation autant les gilets jaunes en France et leur projection de plus en plus d'ailleurs hors de l'Hexagone que le visage qui pourtant ne ressemble guère au gilet jaune de Monsieur Trump, que d'une façon générale les vagues populistes un peu partout dans le monde, et puis effectivement cette espèce de retour étrange du nationalisme. Pourquoi je dis retour étrange? Parce qu'il est tout à fait en contradiction avec notre temps. Notre temps est le temps de l'ouverture et de la mondialisation que nul ne pourra abolir par décret, pas même Monsieur Trump. Et du coup, ce nationalisme fait un peu l'effet d'un contre-courant. J'ai toujours cette phrase de Todorov qui était très explicite lorsqu'il disait du nationalisme contemporain qu'il n'a rien à vendre. Il n'a rien à vendre, mais il a à acheter des voix. Et c'est ça, ce néo-nationalisme. C'est en quelque sorte une manière de faire fortune électorale et en détournant des vrais problèmes du monde. Et cette fièvre nationaliste met en accusation la mondialisation, d'ailleurs sans jamais l'analyser, sans jamais regarder ce qu'il y a exactement au sein de celle-ci, ce qui peut être sauvable et ce qui peut être profitable pour l'humanité, parce que la mondialisation rend aussi de grands services à l'humanité. Et donc, on a affaire exactement à cette grande peur, comme on disait autrefois dans d'autres séquences de l'histoire, une grande peur qui fédère les intérêts, les anxiétés, les revendications, mais qui, de manière très intéressante, ne débouche sur aucune idéologie. La peur, d'ailleurs, n'est pas porteuse d'idéologie en soi, elle est porteuse de comportements, et ces comportements ont cet effet paradoxal de fédérer tout un tas de gens qui ne se ressemblent pas, c'est ce que j'ai dit à un moment, mais aussi de les séparer. C'est-à-dire, ben, on va chacun régler les problèmes de notre côté, on va se replier, on a peur, donc on se replie chez nous, on ferme les portes, on ferme les fenêtres, on ferme les volets, et on espère que personne ne viendra nous déranger, ce qui est à contresens même de notre histoire contemporaine. Mais ça, la peur, on dit qu'elle est mauvaise conseillère, dans l'histoire, elle a toujours, toujours abouti à des catastrophes.
Des catastrophes?
Bah, des catastrophes, c'est-à-dire la guerre, d'abord. Généralement, on fait la guerre parce qu'on a peur. On a peur de l'autre, on tient l'autre pour une menace, donc quand vous tenez l'autre pour une menace, eh bien, vous faites usage de la force pour l'écarter de votre chemin. C'est un peu ce qu'on fait déjà avec les migrants, d'une façon générale, qui deviennent le bouc émissaire de notre planète aujourd'hui, mais c'est ce que l'on a de plus en plus tendance à faire dans les rapports internationaux. On le voit au Moyen-Orient, on le voit dans le Sahel, on le voit dans le bassin du Congo, et les autres catastrophes, bah, vous savez, la peur n'est jamais source d'enrichissement, donc c'est à mettre aussi en corrélation avec les difficultés de l'économie mondiale aujourd'hui. La peur, c'est aussi ce qui fait renaître les vieux fantasmes racistes, xénophobes, antisémites. Bon, j'étais quand même frappé de voir à quel point ce mouvement des Gilets jaunes était porteur de tout un tas de slogans xénophobes, racistes, antisémites, au-delà de la bavure. C'est-à-dire la récurrence était telle qu'on peut plus parler de bavure, de débordement, de déraillement. Non, il y avait quelque chose de structurel lié précisément à cette peur. Et cette peur de l'autre, qui est la triste actualité de cette fin d'année, mais hélas, je pense qu'on pourrait dire de cette décennie, c'est quelque chose qui peut aboutir à des résultats périlleux. D'ailleurs, non seulement sur le plan de la diffusion de ces idéologies racistes qui reprennent du grain, et qui surtout, et c'est ça qui est grave, sont de plus en plus autoriser, on laisse faire, on laisse dire. Lisez les réseaux sociaux, c'est effrayant ce que l'on dit, effrayant. Il y a 10 ans, on n'aurait pas osé s'exprimer de cette façon. Donc il y a une permissivité à l'égard tous ces diabolismes qui est quand même inquiétante, mais au-delà de ça encore, je pense que cette espèce de repli identitaire peut créer une sorte de défiance structurelle, structurante même, du jeu international. C'est-à-dire, ben voilà, on fait de la dénonciation de l'autre la banalité de la gestion de l'ordre international. Que l'on ait cette stigmatisation collective. C'est-à-dire, ce n'est pas un dirigeant qui est mis en accusation, Mais c'est généralement des peuples maudits, des nations maudites, des nations qu'on veut exclure. Alors qu'il s'agisse de l'Iran, qu'il s'agisse de la Chine, la montée de la sinophobie, c'est quand même quelque chose que je trouve inquiétant et qui montre que l'un des défauts majeurs de notre temps, c'est de ne pas savoir construire des partenariats à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, on peut aimer ou ne pas aimer la Chine, ça, chacun est libre d'avoir ses affinités, notamment culturelles, qu'il entend, mais récuser un partenariat avec la Chine, comme on le fait couramment, on ne discute jamais avec la Chine. Sur le plan commercial, on fait des voyages officiels pour signer quelques contrats, mais enfin, il n'y a pas cette espèce de partenariat continu. Quand il y a des grandes questions internationales qui se posent, soit au Moyen-Orient, soit en Afrique, que soit dans les dysfonctions du multilatéralisme, il n'y a jamais de commission paritaire euro-chinoise, franco-chinoise. Et quand il y a une rencontre américano-chinoise, comme ça a été le cas à l'occasion du dernier G20, toutes les caméras sont là, comme si c'était un événement extraordinaire, comme si des martiens avaient débarqué sur Terre, alors que quand même, les deux puissances économiques les plus importantes du monde discutent entre elles dans un contexte de mondialisation, ça devrait être archi banal, mais ça devient archi spectaculaire et exceptionnel. Ça, c'est le signe que notre planète ne tourne pas comptablement.
Alors, grande peur de la mondialisation, je retiens cela de ce que vous avez dit jusqu'à présent, Bertrand Badi, retour du nationalisme. Alors, grande peur de la mondialisation, il faut dire aussi qu'on nous a vendu, vous parliez de défiance, on nous a vendu la mondialisation, et les résultats ne sont pas aussi probants que ce que on avait pu laisser entendre pour une certaine partie de la population, me semble-t-il. Non, vous n'êtes pas d'accord?
Non, je pense pas qu'on puisse poser le problème en ces termes. Vous savez, la mondialisation, elle est ni bonne ni mauvaise en soi. Elle est ce qu'on en fera. Ce qu'on en fera, c'est-à-dire, tout dépend non pas de la mondialisation, mais de la politique de mondialisation. Maintenant, si on regarde la politique de mondialisation, je trouve qu'on est injuste de la mettre en accusation de cette manière, quand on sait que grâce à la mondialisation, on a pu améliorer sensiblement la sécurité sanitaire dans le monde. L'OMS fait un travail formidable de vaccination en Afrique. La sécurité alimentaire, elle est encore à un niveau scandaleux puisqu'il y a 870 millions d'individus sur Terre qui ne mangent pas à leur faim, ce qui est énorme. Mais c'était déjà à ce niveau-là il y a 50 ans. Alors qu'entre-temps, la population mondiale a doublé, ce qui prouve que la FAO, le PAM font, le PNUD font un travail tout à fait remarquable. Grâce à la mondialisation, on a pu réunir la COP21. Grâce à la mondialisation, on a créé le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Alors, ça ne résout pas tout, mais c'est quand même grâce à la mondialisation que les choses ont pu avancer. Et je trouve que, de ce point de vue, ceux qui ont été sauvés du mal extrême sont plutôt reconnaissants à cette mondialisation. Moi, j'ajoute quelque chose qui me touche beaucoup dans la mondialisation, c'est que grâce à la mondialisation, tout le monde voit tout le monde. Il n'y a plus d'hypocrisie, il n'y a plus de travail derrière les rideaux. Au fin fond de l'Afrique, on sait tout ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire maintenant, le pauvre sait qu'il y a des riches sur Terre, le faible sait qu'il y a des forts sur Terre. Et ça, c'est quand même un progrès important qui va pas forcément dans le sens de la paix, parce que le pauvre se révolte davantage, le faible se révolte davantage parce qu'il sait que il est défavorisé par rapport aux autres, mais au moins, justement, cette dissimulation qui était la caractéristique de ce monde non communicant n'est plus possible aujourd'hui.
Alors Bertrand Badi, pour boucler cette thématique sur la mondialisation, finalement, avec tous les bienfaits de la mondialisation que vous venez d'évoquer, comment est-ce que vous expliquez cette peur de la mondialisation?
D'abord, cette peur de la mondialisation, elle est vendue. C'est-à-dire que vous avez quantité d'entrepreneurs politiques qui en font un marché électoral. Regardez le programme notamment de ces formations populistes qui ont le vent en poupe aujourd'hui, il est structuré autour d'une dénonciation de la mondialisation qui est présentée comme le responsable de tous les maux. C'est vrai que la mondialisation est responsable de beaucoup de maux, mais elle n'est pas, encore une fois, responsable de tous les maux. Elle est même souvent source de bien. Mais beaucoup d'entrepreneurs politiques savent parler à ceux qui sont dans une situation de précarité, leur dire, bah écoutez, s'il n'y avait pas les Chinois, ou s'il n'y avait pas les délocalisations, ou s'il n'y avait pas la mondialisation en soi, vous iriez beaucoup mieux. Donc retour à la nation, retour à la souveraineté. S'il n'y avait pas les migrants, vous ne serez pas menacé dans votre emploi, on ne risquerait pas de vous arracher votre sac dans la rue, alors qu'on sait qu'il n'y a aucune corrélation entre la migration et l'insécurité. Mais tout ceci renvoie peut-être à quelque chose de plus profond et qu'il faut méditer, parce que ça, c'est important. Les femmes et les hommes de ma génération, ils ont connu deux vies. C'est-à-dire qu'ils ont connu une enfance, une adolescence, une jeunesse, et les premiers temps de leur âge adulte dans un contexte international, c'est-à-dire de concert des nations, et où on leur expliquait que leurs valeurs, leur discours, leur horizon se limitaient aux frontières de leur État-nation. Et en moins d'une génération, en l'espace d'une décennie, ces personnes ont dû basculer dans un tout autre monde, où on leur dit, cette fois-ci, vous vivez dans un monde unique. Et ce monde unique est appelé à avoir des valeurs uniques, des normes uniques, des enjeux uniques, et vous devez vous fondre dans toute une série de populations qu'autrefois on vous décrivait comme lointaines, voire exotiques, pour pas dire barbares, lorsqu'on essayait en quelque sorte de vous rappeler que vous incarniez la race supérieure et que les autres relevaient des races inférieures. Et donc ces mêmes personnes ont dû basculer dans un monde totalement nouveau, vous avez le vertige. Et ce vertige, il est facile à apprivoiser par les forces politiques qui vous le vendent comme étant l'expression, effectivement, d'une dysfonction de notre système international. Là où il y a mensonge, c'est que ces gens ne vous disent pas que cette mondialisation ne pourra pas plus l'abolir. On ne pourra pas abolir Internet, on ne pourra pas abolir les formes modernes et sophistiquées de communication. Donc la mondialisation, elle est là et elle est destinée à rester.
Bertrand Badi, il nous reste 2-3 minutes avant de terminer cette première partie. On va décliner à la fois dans la deuxième partie les éléments que vous nous avez donnés. Je commence par Donald Trump. Comment est-ce que vous voyez le phénomène Trump? Est-ce qu'il est dangereux, comme le clament les démocrates, ou juste un homme d'affaires new-yorkais qui joue sur les rapports de force? Le président américain a annoncé récemment le retrait des soldats américains de Syrie. Vous pensez que la deuxième partie du mandat de Donald Trump risque de faire beaucoup tanguer le monde?
Oui, parce que Trump s'est fait le chef de file justement de cette dénonciation du multilatéralisme et de cette promotion de l'intérêt national, ce qui est extrêmement dangereux dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et derrière cela, il y a plusieurs choses qu'il faut analyser de manière très précise. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cet homme incarne une forme de diplomatie quasiment inédite, en tous les cas à ce point-là, qui est ce que j'appellerais la diplomatie électorale. C'est-à-dire, je ne parle pas pour gérer l'ordre international, je parle à mes électeurs pour qu'ils votent pour moi. La diplomatie électorale, quand vous êtes à la tête de la République de Saint-Marin, c'est pas bien grave. Diplomatie électorale, quand vous êtes à la tête de la superpuissance, c'est très grave. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que, et là, c'est beaucoup plus compliqué à analyser, Trump a définitivement rompu avec l'idée des États-Unis gendarmes du monde. Il l'a dit explicitement, d'ailleurs, il y a 2-3 jours dans l'un de ses tweets, ce qui veut dire que le temps de l'hégémonie est fini. Et ce qui veut dire que maintenant, si nous avons des ressources de puissance, et Dieu sait si les États-Unis ont des ressources de puissance, elles ne seront pas au service du gendarme mondial qui n'existe plus, mais au service de l'intérêt national. Ce qui va complètement bouleverser les paramètres même de la planète et qui fait que nous aboutissons à un paradoxe énorme, à savoir que le pays qui a sinon inventé la mondialisation, parce que personne ne l'a inventé au singulier, mais qui en a été le principal agent et principal promoteur, en est devenu aujourd'hui le principal contestataire. Ça, c'est un retournement complet du monde. C'est-à-dire que l'agent porteur de la mondialisation devient son premier contestataire. C'est pas seulement Monsieur Orban, Monsieur Salvini ou Madame Le Pen qui contestent la mondialisation, c'est le leader de la première puissance mondiale de pratiquement la moitié des dépenses militaires du monde.
On s'arrête pour cette première partie. Bertrand Badi, on vous retrouve après le...
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, quel monde en 2019? Regard sur les grands enjeux mondiaux avec notre invité Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po, expert en relations internationales, auteur de très nombreux ouvrages, le dernier Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse aux éditions La Découverte. Bertrand Badi, dans la première partie de l'émission, on est beaucoup revenu sur la mondialisation, la grande peur de la mondialisation que vous évoquiez, le retour du nationalisme, la défiance, la difficulté à construire des partenariats. Vous évoquiez en fin de première partie, parce qu'on parlait de Donald Trump, le phénomène Trump, savoir s'il était juste un homme dangereux, comme le clament les démocrates, ou juste un homme d'affaires new-yorkais qui joue sur les rapports de force. Et vous êtes revenu sur la diplomatie inédite du président américain en parlant de diplomatie électorale et également la rupture avec ce qu'étaient les États-Unis avant Donald Trump. Probablement des États-Unis davantage gendarmes du monde, et vous évoquez l'idée que l'hégémonie américaine, on en avait fini avec cette hégémonie. On va détailler un peu plus en donnant des exemples pour appuyer vos théories, Bertrand Badi, la question du retrait des États-Unis de Syrie annoncé récemment. Qu'est-ce qui d'abord explique cette volonté des États-Unis de se retirer aujourd'hui de Syrie? Il y a aussi un retrait annoncé pour l'Afghanistan. Qu'est-ce qui explique l'Afghanistan? On est dans ce que vous évoquiez, c'est la fin de l'hégémonie américaine?
Absolument. Et c'est un événement considérable, significatif, qu'il faut analyser avec précision. Alors, on parlait tout à l'heure de diplomatie électorale. Il y a là un élément d'explication, c'est-à-dire c'était une promesse électorale du candidat Trump, et c'est effectivement une façon de faire plaisir à son électorat que de lui signifier que les boys ne reviendront pas dans des cercueils, ce qui est toujours hautement traumatisant, et on le comprend très bien dans la société américaine, et cela depuis la guerre du Vietnam, et aussi parce que, du coup, autant d'économies seront faites, puisque ces opérations coûtent très cher, elles coûtent très cher aussi à la France, hein, lorsqu'elle les mène. Donc il y a là, à la base, une posture qui correspond à ce que j'appelais tout à l'heure la diplomatie électorale. Il y a un peu plus. Il y a un peu plus d'abord parce qu'il y a la conviction chez Trump que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde, outre que ça leur est très coûteux. Non seulement c'est coûteux, mais ce n'est plus possible. Là, paradoxalement, il n'est pas très loin de Barack Obama, qui lui aussi avait très clairement fait valoir que la politique des néoconservateurs, en quelque sorte gardien du temple vertueux du monde, était une politique vouée à l'échec. C'est le traumatisme de l'expédition américaine en Irak. La différence, c'est que Barack Obama considérait que l'on ne pouvait plus être le gendarme du monde, mais que l'on pouvait redéployer le leadership ou l'hégémonie américaine à travers notamment l'économie mondiale. D'où effectivement cette posture néolibérale très forte qui était la sienne. Trump ne considère pas que l'économie soit une façon de reconstituer le leadership américain, d'où il troque effectivement cette notion de leadership contre celle plus avantageuse d'intérêt national. Ne nous occupons pas d'être le leader du monde, occupons-nous d'être les plus heureux et les plus riches possibles dans ce monde, ce qui est tout à fait différent. Et puis il y a un troisième élément qui, d'un certain point de vue, relève d'une certaine lucidité. Trump explique que les États-Unis n'ont plus aucune chance de tirer un avantage dans le conflit syrien. Et que ce n'est pas la peine de se battre pour être là, ils ne sont déjà plus là. Les principales cartes sur le dossier syrien sont entre les mains, pense-t-on, de la Russie de l'Iran, de la Turquie. Et du coup, Trump revient à une idée qui était une idée obamienne, du leadership from behind, c'est-à-dire ce que nous ne pouvons pas faire, laissons-le faire par des alliés en qui nous ayons confiance. Alors, la Turquie est quand même membre de l'OTAN. Il y a eu un deal assez spectaculaire entre Trump et Erdogan, qui ouvre effectivement un boulevard aux dirigeants turcs, notamment, hélas pour eux, la liquidation du YPG, des mouvements kurdes qui ont joué un rôle très très actif dans la lutte contre Daesh. Et puis on fait revenir également l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Vous savez, les Émirats Arabes Unis viennent de rouvrir leur ambassade à Damas. Un allié de Riyad, qui est M. Bachir, le président du Soudan, a fait une visite à Damas. Tout ceci montre que les États-Unis se retirent en se disant « mais finalement, ceux qui nous sont le plus proches pourront faire le travail à notre place et empêcher que la Russie et l'Iran, qui sont pour le premier le vrai rival et pour le second le véritable ennemi de l'Iran, puissent tirer tous les marrons du feu ». Donc il y a là une opération assez complexe qui effectivement fait le désespoir du Pentagone, d'où la démission du général Mattis, parce que dans la rationalité du Pentagone, il y a deux failles dans ce type de décision. D'une part, la rupture des alliances, parce que ceux des Européens qui étaient aux côtés des États-Unis sur le terrain syrien, en tous les cas nord-syrien, en particulier la France et la Grande-Bretagne, sont en quelque sorte abandonnés. Et puis deuxièmement, il y a, ce qui est toujours désagréable quand on est une armée forte et supposée la plus puissante du monde, l'impression d'un retrait, alors que le travail n'est pas terminé, effectivement il est loin d'être terminé, et qu'il n'y a pas de victoire aussi éclatante que celle qu'annonce M. Trump. Donc tout ceci fait que aux États-Unis, tout le monde, y compris dans le camp républicain, n'est pas convaincu, et tout ceci annonce effectivement beaucoup d'incertitudes pour les lendemains de la Syrie, et aussi, vous avez raison de le dire, de l'Afghanistan. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'Irak fait exception, puisque lors de son récent déplacement en Irak, le président des États-Unis a annoncé qu'il ne toucherait pas à la présence américaine en Irak. On comprend bien pourquoi, parce qu'il y a l'Iran tout à côté, et que là, ce serait livrer véritablement l'Irak à l'Iran, ce dont il ne veut pas.
Alors en tout cas, s'il est difficile de lire la politique étrangère de Donald Trump, si on devait définir la politique étrangère américaine, on peut dire ce que vous évoquez à l'instant, que c'est du leadership from behind. Il n'empêche que le deal avec la Turquie, on n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Autre élément, après ça, on passera à d'autres zones du monde. C'est en tout cas, Bertrand Badi, un revers sérieux pour Israël qui misait sur l'appui américain.
Oui, certainement. C'est-à-dire que Israël était comme rasséréné par ce triangle qui semblait se former États-Unis, Arabie Saoudite, Israël. Et que cela, maintenant, est remis en cause. Encore une fois, la crédibilité de la mobilisation américaine contre l'Iran est mise à mal. D'autant que, quand je parlais de leadership from behind, ça avait un plein sens du temps d'Obama, dans la doctrine Obama. Dans la doctrine trumpienne, j'en suis moins sûr, parce que Trump, de par son choix très nationaliste, est conduit à davantage se décharger sur ses alliés locaux, et les alliés locaux ne sont pas aussi alignés qu'ils pouvaient l'espérer et qu'on pouvait le croire du temps d'Obama. C'est-à-dire que on a bien vu avec l'affaire Khashoggi que l'Arabie Saoudite n'est pas l'enfant de cœur docile, voilà, et que c'est bien souvent l'inverse qui se produit, et ceci est de plus en plus courant, c'est-à-dire le petit frère qui mène le grand frère par le bout du nez, et ça de bonnes chances de durer. Quant à la Turquie, là, le pari de Trump est quand même un pari assez lourd. Croire que Erdogan va faire ce que souhaitent les États-Unis, non. Effectivement, la grande peur des États-Unis, et pas seulement de Trump, c'est de voir la Turquie quitter l'OTAN. Pour l'instant, cette hypothèse est écartée parce que Erdogan savoure les bénéfices qu'il tire de ce retrait américain de la scène syrienne. Mais une fois que cette étape sera franchie, Personne ne sait si le dirigeant turc n'aura pas d'autres idées en tête. En tous les cas, être l'allié affidé des États-Unis, ça c'était bon pour la guerre froide. Vous savez, c'est la notion même d'alliance, moi qui me paraît complètement discréditée par la mondialisation. La mondialisation pousse nécessairement à beaucoup plus de fluidité, et donc les alliances au sens classique, l'OTAN soi-même, c'est de l'archéologie. Ce n'est plus un paramètre, ce sont plus des paramètres adaptés aux données de notre monde actuel.
Ce sont des alliances qui font la place aux alliances qu'on appellera circonstanciées. On passe à l'Europe, Bertrand Badi. Les journalistes américains dressent en cette fin d'année un tableau apocalyptique de l'état de l'Europe, une Europe en désarroi entre les gilets jaunes et la montée d'une ultra-droite europhobe. Ils décrivent les Américains toujours une Europe comme une Europe en état de souffrance politique, sans leadership. Vous partagez ?
Malheureusement, c'est pas faux. C'est-à-dire que regardez ce qui se passait à partir de l'élection d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire printemps 2017. Le président français était le seul à appeler vigoureusement à une refondation de l'Europe. Le terme était d'ailleurs bien choisi parce que c'est bien de cela dont l'Europe a besoin. C'est-à-dire que l'Europe est arrivée au bout d'un cycle. Elle est essoufflé, et pire que ça, les méthodes qui ont fait sa réussite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ne sont plus adaptées justement aux données de la mondialisation. C'est-à-dire, l'ancienne Europe, c'était l'association d'États, maintenant, le besoin dans la mondialisation, c'est la solidarité, ce qui est beaucoup plus que de l'association. Et ça, dans le climat nationaliste qu'on décrivait tout à l'heure, c'est pas demain la veille que ça se réalisera. Et à l'époque, donc, Macron en était tout à fait conscient et avait cette idée de relance. Il était seul. Il était seul. Parce que Madame Merkel, qui l'aurait bien suivi, est embourbée dans des invraisemblables problèmes de politique intérieure. Parce que la Grande-Bretagne est sortie, elle est sortie d'ailleurs en boitant. Parce que l'Europe centrale plus l'Italie plus une partie des Scandinaves voire des Néerlandais sont empêtrés dans le nationalisme. Donc il n'y a plus, sauf peut-être l'Espagne et le Portugal et peut-être la Belgique qui elle-même est entrée en crise, de partenaires pour penser cette transformation de l'Europe. Mais la voix d'Emmanuel Macron s'est éteinte. C'est-à-dire, il était seul et maintenant il est absent. C'est-à-dire que lui-même pris au piège des problèmes de politique intérieure, lui-même pris au piège d'une opinion publique obsédée par cette peur de l'autre. Et l'autre, c'est la mondialisation, mais c'est aussi l'intégration européenne. Elle est mise en accusation, cette intégration européenne, par les mouvements actuels, autant que la mondialisation. Et donc, on est dans l'impasse la plus totale, avec quand même, vous évoquez la question du leadership, effectivement, est-ce que Monsieur Juncker est cette personnalité de la trempe d'un Jacques Delors autrefois pour porter le drapeau de l'Europe? On en doute, et quand on essaye d'imaginer qui pourrait prendre, après les élections européennes, la présidence de la Commission européenne, les noms qui nous sont proposés, probablement des gens très très bien, mais n'évoque pas ce charisme dont on aurait besoin, j'évoquais le nom de Jacques Delors tout à l'heure, pour relancer l'Europe. Donc effectivement, il y a de quoi être pessimiste. J'ajouterais une chose, c'est que j'ai toujours considéré que l'une des faiblesses de l'Europe, c'est de ne pas se sentir dans le monde. L'Europe se sent dans l'Europe.
On va parler de l'Afrique. Des manifestations qui se multiplient au Soudan contre la hausse du prix du pain et le régime d'Omar al-Bashir, des élections partiellement reportées en République démocratique du Congo. Vous êtes souvent en Afrique, Bertrand Badi. Qu'est-ce que vous y voyez ?
Je voudrais terminer, et surtout à propos de l'Afrique et de nos amis africains, sur une note positive. C'est-à-dire, effectivement, l'Afrique, elle a deux malédictions qui sont la faiblesse des institutions politiques et, d'autre part, cette conflictualité qui se pérennise et qui aboutit même à des sociétés guerrières que nous connaissons, Congo, Sahel, etc. Ça, tout le monde le sait. Mais il ne faut pas dire seulement ça. Ce que je vois en Afrique, c'est une dynamique sociale incroyablement puissante. C'est-à-dire un peu comme si les sociétés civiles étaient en éruption, au sens noble et positif du terme. C'est-à-dire, je suis frappé de voir, par exemple, la motivation et la force des étudiants que je rencontre quand je vais en Afrique, de cette jeune génération d'intellectuels et d'universitaires africains, absolument extraordinaire, soif de débat public, de discussion. Cette capacité, vous évoquiez les manifestations, des sociétés civiles de dire et d'empêcher de faire. J'ai vu en Côte d'Ivoire comment on s'est levé contre la corruption, contre la manipulation électorale à l'occasion des élections municipales. On voit dans les pays les plus souffrants, je pense au Nigeria en particulier, le courage de ces ONG africaines qui luttent contre non seulement la corruption, mais aussi les pollutions, les formes les plus extrêmes de pollution. C'est la pollution, c'est d'abord une affaire africaine, avant d'être une affaire de riches, c'est une affaire africaine. Donc, on voit une société en mouvement. Le problème est de savoir si cette dynamique sociale aura le bon transformateur qui permettra d'en faire la base d'une dynamique de changement politique. C'est ça, l'avenir de l'Afrique. Et pour cela, non seulement il faut que ces régimes puissent en quelque sorte dépasser l'état en même temps d'inefficacité et d'auto-centrement qui les caractérise, mais il faut aussi, vous savez, je cite toujours ce proverbe Bambara, prendre conscience qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence, c'est-à-dire redonner à l'acteur local toute sa force et sa puissance. D'ailleurs, les problèmes africains ne seront réglés que par les Africains. C'est pas les contingents français, américains, peut-être turcs ou chinois un jour, qui pourront régler les conflits africains, de même que lorsque l'Europe était ensanglantée, ce n'était pas les armées chinoises qui venaient nous réconcilier.
Alors, il y a des pays dont on n'a pas parler, la Chine, on en parle dans Géopolitique demain, Bertrand Badie. Pour conclure et en revenir à votre ouvrage Quand le Sud réinvente le monde, essai sur la puissance de la faiblesse, dont vous parlerez aussi demain dans l'émission Idées avec Pierre-Edouard Deldic à 12h10 en heure de Paris, vous évoquez la transformation du système international et vous dites que les États n'en prennent pas suffisamment la mesure. La science politique ne l'étudie pas non plus davantage.
Non, parce qu'on commet toujours cette erreur de regarder le monde à partir de sa fenêtre. Il faut avoir le courage de sortir de chez soi et de regarder son bâtiment du dehors. Vous savez, quand un bâtiment est en quelque sorte abîmé, il faut constater les dégâts de l'extérieur. Si on sort du cadre, du cercle de ces vieilles puissances et qu'on regarde le système international dans son entier, on s'aperçoit qu'il est considérablement réinventé par justement cette pression venue du Sud. Le Sud où se concentre l'essentiel des conflits, où se forme l'essentiel des enjeux et où se cristallise l'essentiel des espoirs. L'Afrique qu'on évoquait tout à l'heure, ça sera à l'horizon 2100, 40% de la population mondiale. Vous savez, le système international de papa ou grand-papa Hobbes, à ce moment-là, il fonctionnera plus du tout. Et déjà, il ne fonctionne plus. Simplement, on ne veut pas voir comment il fonctionne, c'est pour ça qu'on ne sait pas résoudre ces pathologies.
Est-ce que vous diriez, pour conclure, vraiment que la plus grande menace pour l'année 2019, ce serait des erreurs politiques ?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Je pense que notre monde est l'otage d'erreurs politiques à répétition, de cette espèce de cécité sur ce qu'est devenu le monde, sur l'importance des enjeux sociaux, bien plus que les enjeux politiques et que les enjeux géopolitiques, c'est-à-dire la sécurité humaine, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité environnementale. C'est ça les vrais enjeux. Et le droit de ceux qui souffrent d'en inspirer l'essentiel des remèdes. Et c'est pas aux riches de continuer à jeter quelques pièces jaunes au Sud.
Merci Bertrand Badi. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à Sciences Po, expert donc en relations internationales. Et à ce propos, il y a un ouvrage qui, d'une certaine manière, vous est dédié. Un monde fragmenté, essai sur la sociologie des relations internationales de Bertrand Badi, avec trois auteurs, Delphine Alès, Romain Maléjac et Stéphane Paquin. Et vous-même, votre dernier ouvrage, Bertrand Badi, « Quand le Sud réinvente le monde », essai sur la puissance de la faiblesse aux éditions La Découverte. Et je signale également ce numéro hors série de Alternatives économiques, quel monde en 2019, point d'interrogation, tous les points chauds de la planète, les analyses des meilleurs spécialistes et les grands enjeux mondiaux en partenariat avec Sciences Po. Géopolitique était signé Mathias Taylor et Marie-France Chatin. Demain, nous parlerons de la Chine et de l'Europe. À demain.